Dans l'épître de Paul aux Philippiens, je crois que ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas regardé, on a eu beaucoup d'autres choses entre, mais on est arrivé au chapitre 3 de l'épître de Paul aux Philippiens, donc je vous invite à lire avec moi dans le troisième chapitre. Et à partir du verset 1, Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 1, écoutons la parole de Dieu. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Jusqu'ici, notre lecture. Alors, je commence avec une question, un petit sondage, peut-être auquel vous pouvez répondre intérieurement, silencieusement, mais connaissez-vous Jésus-Christ? Connaissez-vous Jésus-Christ? Je suppose que la réponse peut-être que vous porteriez à cette question serait oui, bien évidemment. Ou peut-être ceux qui se disent, il y a peut-être un petit piège dans cette question, diraient oui et non. Oui, certainement, on le connaît, mais peut-être non, pas comme nous devrions le connaître. Pas assez. Dans notre texte, le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul exprime son profond désir de connaître Jésus-Christ. Parce que si vous avez bien fait attention à ça, à la fin du passage que nous avons lu, déjà au verset 8, il dit qu'il regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et puis, il parle du fait de vouloir gagner Christ, toujours au verset 8, il dit « Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Et puis, maintenant, il parle au verset 10 « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. » Et puis, plus tard, je crois que c'est au verset 12, il parlera de « saisir ». J'ai saisi Jésus-Christ parce qu'il a lui-même été saisi par lui. Donc on comprend bien ici qu'il y a plusieurs degrés dans la connaissance, n'est-ce pas? L'apôtre Paul connaissait Jésus-Christ. C'est ce que nous savons de Jésus-Christ, nous le trouvons dans les évangiles et particulièrement dans les épîtres de Paul, toute la doctrine qui concerne le salut en Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul, bien sûr, connaissait Jésus-Christ, mais il parle probablement là d'une connaissance encore plus profonde, plus intime qu'une simple collection de faits historiques concernant Jésus-Christ. Et peut-être que lorsqu'on nous demande « est-ce que vous connaissez Jésus-Christ ?», on pense « oui » et on pense tout de suite à ce que nous savons de Jésus-Christ, c'est-à-dire ce qu'il a fait, hein, comment il a vécu, hein, la somme, on pourrait dire, de savoir peut-être théologique, historique ou éthique concernant Jésus-Christ. Mais ce que Paul dit ici est bien plus profond que cela. Il y a plusieurs manières de connaître, n'est-ce pas, les gens, hein. Si je vous disais, connaissez-vous Mozart? Si vous êtes musicien, vous diriez oui. Et puis vous, peut-être, vous connaissez suffisamment combien de symphonies il a composées. Peut-être vous savez à quelle date il est décédé. Mais si je vous demandais, mais qu'est-ce qu'il aimait le plus? Qu'est-ce qui le réjouissait le plus? Ou qu'est-ce qui l'attristait le plus? Et vous dites ça, je ne sais pas. Hein. Vous ne savez pas parce que peut-être ça n'a pas été révélé. Ou peut-être parce que aussi vous n'avez pas été vous-même en relation avec lui. Et on voit que pour connaître vraiment quelqu'un, il faut une relation avec cette personne. Et plus la relation est intime, et plus on connaît bien sûr cette personne. Donc lorsque l'apôtre Paul parle ici de connaître Jésus-Christ, il parle vraiment d'une connaissance profonde, on pourrait dire une connaissance expérimentale. On voit que c'est une connaissance vivante et même vivifiante. Il ne s'agit pas vraiment de connaissances qu'il a acquises après des études, même si cela est important d'étudier, de lire de cette manière. Mais il parle d'une connaissance intime de la personne même de Jésus-Christ, une connaissance dans laquelle il y a une relation. Et c'est son désir, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il dit qu'il regarde toute chose comme de la boue ou comme une perte à cause de Jésus-Christ. C'est-à-dire que son désir d'expérimenter une relation profonde avec Christ est tel qu'il regarde tout ce qui pourrait concerner sa vie matériel, le confort, autre chose, la connaissance même, comme de la boue, pour pouvoir, dit-il, gagner Christ. Alors le titre de notre méditation ce matin, c'est « La connaissance expérimentale de Jésus-Christ ». Est-ce que nous connaissons Jésus-Christ de manière expérimentale? Et voyons comment l'apôtre Paul qualifie un peu cette connaissance. Le verset 10, donc, est celui qui va nous considérer ce matin, en tout cas en partie. Il dit « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » On pourrait dire ici que ce que Paul met en évidence, c'est plus qu'une simple connaissance. Et le premier point que je voudrais développer, c'est que plus qu'une simple connaissance, il parle de l'expérience de sa puissance, plus qu'une simple connaissance, l'expérience de sa puissance. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Donc l'apôtre, ici, il explicite un petit peu la connaissance dont qu'il parle ici. Donc la puissance de sa résurrection. L'Écriture ne parle pas simplement, souvent, de la résurrection de Jésus-Christ comme fait historique, mais parle aussi de la puissance de cette résurrection. Peut-être vous vient à l'esprit quelques versets, mais lorsque l'apôtre Paul veut encourager les chrétiens d'Éphèse, il va leur parler d'une connaissance qu'ils doivent avoir, de choses qu'ils doivent savoir, et il va insister sur la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Il veut qu'ils considèrent cela comme la puissance qui agit en eux-mêmes. Alors regardez avec moi Éphésiens chapitre 1, verset 16. Gardez bien sûr un doigt dans Philippiens, mais Éphésiens chapitre 1, et à partir du verset 15 même, il dit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières afin que le Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans quoi? Dans sa connaissance. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est
l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Quelle est envers vous, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance ici? Il dit, je prie pour que vous ayez une révélation de sa connaissance et je prie pour qu'il vous révèle, que vous saisissiez quelle est verset 19, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et il parle de cette puissance. Qu'est-ce qu'il dit verset 20? Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite de Dieu, à sa droite dans les lieux célestes. Il dit, je prie pour que vous ayez cette connaissance de Christ. Il dit, ici ce qu'il y a, que Dieu illumine, qu'il vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, verset 17. Il dit, afin que vous saisissiez quelle est l'infinie puissance qui se manifeste en vous avec l'efficacité de sa force. Il dit, cette puissance, il l'a déployée, il l'a manifestée en ressuscitant Jésus-Christ entre les morts. Qu'il parle de la puissance de la résurrection et du fait que cette puissance agissant en vous vous amène à une profonde connaissance de Jésus-Christ. Tous les termes de ce passage font référence à la puissance. Si je lis par exemple le texte dans la version Darby, il dit « Et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'opération de la puissance de sa force qu'il a opérée en Christ en le ressuscitant d'entre les morts. » Vous voyez, là on a vraiment ici quelque chose de dynamique où l'apôtre parle de cette force, de cette extraordinaire puissance. La version Sommer dit « l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur ». C'est comme ça qu'il traduit ce verset-là. Et il dit « il faut que le croyant… » Paul dit « je prie que vous soyez conscients de cela, que Dieu met en notre faveur, met à disposition la puissance par laquelle il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est une puissance extraordinaire, n'est-ce pas? On peut parler de la puissance dans certains miracles de guérison, hein, faire passer quelqu'un de la maladie à la bonne santé. C'est un miracle que les apôtres aussi ont opéré, d'accord? Mais il y a une puissance particulière dans le fait de faire passer de la mort à la vie. Quand on regarde autour de nous, il semble que la vie se termine toujours par la mort et que la mort est la fin de toute chose. D'accord. Mais et il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts, nous semble-t-il, en tout cas, pour passer de la vie à la mort. Mais pour passer de la mort à la vie, seul Dieu est capable de faire cela. Parce que si vous vous rappelez dans Ézéchiel, lorsque Dieu emmène son prophète, je ne sais plus, j'oublie le lieu, mais et puis il lui fait voir plein d'ossements qui sont là, et puis il dit, fils de l'homme, est-ce que ces os reprendront vie, n'est-ce pas? Et puis, je ne rappelle plus la réponse de quoi qu'Ézéchiel dit, tu le sais, Seigneur, quelque chose comme ça. Et puis Dieu dit, eh bien, par son esprit, par sa parole, eh bien que ces os reprennent vie, puis après il y a des nerfs qui poussent sur les os, des muscles qui commencent à pousser, puis la Bible dit qu'en peu de temps, il y a une armée qui s'est levée. D'accord? Je vous propose de faire l'expérience, allez dans n'importe quel cimetière, et puis dites, ossements qui êtes là, levez-vous, hein, vous allez voir ce qui se passera. Peut-être qu'on vous attrapera vite, on vous enfermera rapidement, n'est-ce pas? Mais Dieu a cette puissance d'amener ce qui est mort à la vie. Et c'est ce qu'il fait aussi spirituellement dans notre vie, parce que la Bible dit que nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie. Et par quelle puissance? Eh bien, par cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, il est important que nous considérions cela. Il n'y a pas de degré en dessous duquel la puissance de Dieu ne puisse intervenir pour ramener à la vie. La Bible raconte trois fois où Jésus fait revenir quelqu'un à la vie. Il y a eu la fille de Jaïrus, pas si vous vous rappelez, elle venait de mourir. Et Jésus l'a ramène à la vie. Et puis il y a eu le fils unique d'une veuve où le cercueil passait déjà, on l'emmenait en terre, ça faisait déjà, il était déjà mort, peut-être depuis une journée, je ne sais plus, mais en tout cas, on allait pour l'enterrer. Et Jésus l'a ressuscité. Puis il y a eu aussi la résurrection de Lazare, lui était mort depuis 4 jours déjà. Et quel que soit le stade, n'est-ce pas, de la décomposition du corps, quel que soit le stade, la puissance de Dieu est capable de ramener la mort à la vie. Il faut, c'est important pour nous de méditer sur cette extraordinaire puissance de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit même que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, eh bien nous devons croire que celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts ressuscitera aussi nos corps mortels. Il dit cela dans l'épître aux Romains. Mais toutes ces résurrections-là, des trois que je vous ai données, que Jésus a opérées, elles ont été des résurrections puissantes, mais qu'est-ce qui est arrivé à ces personnes? Elles sont mortes une autre fois. Mais la puissance par laquelle Dieu a ressuscité Jésus-Christ est une puissance extraordinaire, parce que Jésus vit éternellement. Son corps a été ressuscité et il vit éternellement. Il est important pour nous de considérer ces choses. L'apôtre Paul dit que Jésus-Christ a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par Jésus-Christ, par l'Évangile. Et que Christ ressuscité des morts ne meurt point. Et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et Paul dit, cette puissance de la résurrection, je veux connaître Christ pour expérimenter dans ma vie et dans mon ministère, cette puissance de la résurrection. Il ne dit pas qu'il veut savoir à propos de la résurrection, ou qu'il veut croire davantage en la résurrection. Il ne cherche pas plus d'infos historiques concernant la résurrection. C'est lui qui a écrit 1 Corinthiens chapitre 15, et qui donne tout le développement sur la résurrection. Non, il dit qu'il veut expérimenter dans sa vie la puissance phénoménal qui fait passer de la mort à la vie. Et il ne dit pas qu'il veut le faire en faisant des miracles. Il dit qu'il veut le faire connaissant Christ davantage. Et donc ce n'est pas seulement la foi en la puissance de la résurrection, pas simplement croire en cette puissance. Dans Colossiens 2, 12, il dit par exemple, « Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui » par la foi en la puissance de Dieu. Donc on peut avoir foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts, mais ce dont il parle ici, c'est l'expérience pratique de cette puissance dans la vie et dans le ministère. Donc il ne s'agit pas simplement de savoir que cette puissance existe, de savoir que Dieu peut, ou de savoir que Dieu est puissant pour, mais de vivre réellement cette puissance à l'œuvre dans la vie. Et comment cette expérience se fait-elle? Premièrement, en se soumettant à l'action de l'Esprit. Vous vous rappelez, lorsque Jésus a parlé à ses disciples, il a dit « Ne bougez pas d'ici, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Donc si on veut expérimenter la puissance de l'Esprit, Romains dit que c'est par la puissance de l'Esprit que Jésus-Christ a été ressuscité. Mais si on veut expérimenter cette puissance, il faut être soumis à la direction du Saint-Esprit. Regardez Romains 15, verset 13. Romains 15, verset 13, nous lisons ceci. Hein. Romains 15, 13. Romains chapitre 15 et au verset 13. L'apôtre Paul dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance qui aussi a délivré Jésus de la mort, la puissance de l'Esprit, c'est la même, il dit, que la joie qui est apportée dans la vie du croyant, eh bien, elle est apportée par cette puissance même du Saint-Esprit. Verset 19, juste un peu plus bas. Il dit, verset 18, « Car je n'oserais pas mentionner quelque chose si Christ ne l'avait pas fait par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et les prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Okay? Comme cela que Dieu amène les gens à l'obéissance de la foi. Cet Esprit Saint véhicule la puissance, bien sûr, de Dieu à l'œuvre. Et donc, pour expérimenter cette puissance, il faut être aussi soumis dans sa vie à la direction de l'Esprit. Et on le voit dans la vie de l'apôtre Paul. Plusieurs fois, il dit, j'ai été empêché par l'Esprit d'annoncer l'Évangile. Ici, je voulais aller là-bas, mais l'Esprit nous en a empêchés. Et il était à chaque fois soumis. Il n'a pas marché contre la volonté de l'Esprit, mais il s'est laissé guider par cette puissance. Donc, on expérimente en se soumettant à l'action de l'Esprit. Mais on expérimente aussi en acceptant les contraintes difficiles, parfois, les circonstances difficiles qu'il y a dans la vie. On veut souvent montrer aux gens combien Dieu est grand et combien sa puissance se manifeste dans notre vie en exposant toutes les bénédictions qu'il nous accorde. On peut dire, Dieu est grand, regardez ce qu'il m'a accordé. Dieu est puissant. Regardez ce qu'il a fait pour moi. Et on a peut-être cette tendance à présenter uniquement les choses qui sont des choses faciles et heureuses qui se produisent dans notre vie. Mais l'expérience de la puissance se fait de manière efficace, souvent au sein de la difficulté. Et l'apôtre Paul lui-même, il a vécu cela dans une situation. Rappelez-vous, en 2 Corinthiens chapitre 12, il exprime le fait que il a été mis une écharde dans la chair, dit-il, pour m'empêcher de m'enorgueillir. Et je vous lis ce passage. Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence des révélations qu'il avait eues, il dit, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Et écoutez sa prière. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Et c'est la raison que Dieu donne, que je voudrais souligner ici. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et lorsque Paul dit, je veux expérimenter la puissance de sa résurrection dans ma vie, il dit, je veux pouvoir accepter les faiblesses dans lesquelles il me maintient, parce que je comprends que sa puissance, l'expérience de sa puissance, se vit dans ces circonstances-là. Et il dit, je me glorifierai donc, ça c'est, après cette expérience, je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Attention, hein. Il ne parle pas de n'importe quelle souffrance. Il dit les persécutions, les calamités, les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et on comprend donc que accepter les circonstances difficiles qui sont amenées à cause de la foi en Christ, eh bien, c'est aussi connaître Christ d'une manière expérimentale. Pouvoir expérimenter la puissance de Christ, il faut accepter les circonstances, les limitations dans lesquelles Dieu nous fait vivre. Ce que l'on n'a pas, ce que l'on désire peut-être avoir et que l'on n'a pas, peut-être cette guérison que l'on souhaite, mais qui ne vient pas parce que Dieu a décidé de nous laisser dans ces situations. Ce sont des possibilités, des circonstances qui nous permettent vraiment d'expérimenter sa puissance. L'expérience d'une telle puissance nécessite bien sûr d'être dans la faiblesse, mais aussi cette expérience se fait en luttant contre le péché dans notre vie. Regardez Romains chapitre 6 et verset 8, 14. Romains chapitre 6 et verset 8. Romains chapitre 6, verset 8. Nous lisons ici Romains 6, verset 8. « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est venu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il y a un lien ici, hein, entre, on le voit bien, entre la lutte contre le péché et la mort et la résurrection. On voit ça ici, hein. Vous êtes mort avec Christ, vous êtes vivant pour Dieu. Il parle ici d'une résurrection qui s'est opérée, spirituelle qui s'est opérée, hein, ici. Et donc, l'identification du chrétien de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il dit que cela doit pousser, doit contribuer à nous éloigner du péché. Verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant, comment? Vivant, de mort que vous étiez. C'est une référence encore à la résurrection. Vous étiez mort, maintenant vous êtes vivant et par conséquent, livrez vos membres comme des instruments non d'iniquité, mais de justice et offrez vos membres à Dieu, il dit, comme des instruments de justice. Verset 13. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et donc, expérimenter la puissance aussi de la résurrection de Christ, cela se fait dans la lutte que l'on mène contre le péché. Hein? Parce que c'est par cette puissance que le Seigneur nous délivre de l'emprise du péché. Il dit que le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Pour quelle raison? Parce que vous avez expérimenté cette mort et cette résurrection. Vous êtes mort et ressuscité avec Christ. Éphésiens 2, verset 5 dit ici que nous étions morts et il nous a rendus à la vie. Et toutes ces choses sont là pour nous montrer ici que l'expérience dont Paul parle, l'expérience de cette puissance de la résurrection, eh bien, est liée à la soumission de l'esprit, liée aussi à l'acceptation, parfois des contraintes ou des circonstances difficiles, mais aussi est liée à la lutte contre le péché. Et puis deuxième aspect de connaissance ici, regardez notre passage dans Philippiens 3, verset 10. « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. » Il ajoute « et la communion de ses souffrances. » Donc deuxièmement, plus qu'une simple connaissance. Ici, Paul parle du partage réel de ses souffrances. Donc là, l'expérience de la puissance de sa résurrection, mais aussi le partage réel de ses souffrances. C'est le deuxième aspect qu'il souligne ici. Et là aussi, il ne s'agit pas d'une compréhension intellectuelle des souffrances de Christ, mais du fait d'avoir réellement part, c'est ce que ça veut dire, hein. La communion, c'est avoir part. Donc quand on a part avec quelqu'un à quelque chose, c'est quelque chose que l'on a en commun. Il dit, ce que je veux avoir en commun avec Jésus-Christ, ce sont ses souffrances. Alors on peut comprendre, avoir part à la puissance de la résurrection, c'est quelque chose qui est même très excitant, mais avoir part aux souffrances, c'est autre chose. Hein. On ne cherche pas en général à avoir part aux souffrances des autres. Mais l'apôtre Paul dit, je veux connaître Christ, même de manière à pouvoir partager ses souffrances. De quelles souffrances parle-t-il ici? Bien entendu, il ne s'agit pas de participer aux souffrances, on pourrait dire, expiatoires de Jésus-Christ. On ne peut rien ajouter aux souffrances de Christ à la croix. Hein. Donc Paul ne dit pas qu'il prend part à la souffrance pour le péché des hommes, pour le salut des hommes. Non. L'œuvre de Christ à la croix a été menée une fois pour toutes, et la Bible le dit, hein, il dit que Christ a souffert une fois pour toutes. D'accord? Mais il y a des souffrances qui sont quand même liées à Jésus-Christ et à l'Évangile, et la Bible le souligne clairement. Ce sont des souffrances qui sont en étroite intimité avec Christ. Bien sûr, il ne s'agit pas de souffrances générales non plus. Hein, il ne suffit pas parce que on souffre de dire voilà, ça c'est la souffrance pour Christ. Ce dont Paul parle ici, ce sont des souffrances qui sont liées vraiment à Jésus-Christ et à la foi en Jésus-Christ. Son emprisonnement, par exemple, à Rome, il dit, c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Il le disait au chapitre 1. Et donc, toutes les souffrances que rencontre le chrétien ne sont pas des souffrances pour Christ. Hein. C'est important de souligner ça. Hein. On peut souffrir à cause de sa propre désobéissance. Ça n'est pas une souffrance pour Christ. C'est une souffrance à cause de notre désobéissance. Mais on peut souffrir aussi à cause de son obéissance à Christ. Et là, dans ce cas, c'est une souffrance pour Christ. L'apôtre Paul souligne cela. Il dit pas « je veux connaître Christ et la communion des souffrances », mais il dit « la communion de ses souffrances ». Et donc, il parle bien de quelle souffrance il s'agit. L'apôtre Pierre soulignait la même chose lorsqu'il dit « que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, un voleur ou un malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. » D'accord. Si vous souffrez parce que vous avez triché sur la feuille d'impôt et que le service des impôts vous a épinglé et qu'il vous ramasse tout ce que vous n'avez pas déclaré depuis des années, vous vous trouvez sur la paille, vous souffrez à cause de votre péché, à cause de votre fraude. Ça n'est pas une souffrance pour Christ. D'accord. Et Pierre dit, quand le chrétien souffre, qu'il s'arrange pour ne pas souffrir pour ce genre de raison-là. Il doit même éviter absolument ce genre de choses. Mais il dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Il dit, si on souffre parce que l'on est un chrétien, c'est autre chose. Il dit, il faut même pas en avoir honte, mais même plutôt glorifier Dieu. 1 Pierre 4, verset 15 et 16. Donc chaque fois que des souffrances sont infligées à l'Église, au corps de Christ, ce sont des souffrances pour Christ, ce sont des souffrances de Christ. Il les ressent. Rappelez-vous quand, ce qu'il a dit à l'apôtre Paul, lorsqu'il allait sur le chemin de Damas, il a dit quoi ? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Et Saul persécutait qui ? Persécutait l'Église du Seigneur. Et le Seigneur considère qu'il est persécuté quand son Église est persécutée. Donc les souffrances qui sont infligées au corps de Christ sont des souffrances aussi de Christ. Donc il y a des souffrances bien sûr, qui sont liés au fait d'appartenir à Jésus-Christ. Et le chrétien, l'apôtre Paul dit, moi je veux connaître Christ au point de participer même à ces souffrances-là. Je veux avoir communion de ces souffrances-là. Et l'apôtre Jésus avait parlé déjà de ces souffrances. Et quand il dit, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Il aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous aime et vous choisit comme des... Hein, non, il vous hait, il ne vous aime pas. Il dit, pourquoi ? Parce que je vous ai choisi. Et il faut savoir cela. La Bible dit que le monde n'aime pas ceux que Dieu a choisis. Et c'est une chose étrange que de chercher à se faire aimer du monde. Hein, lorsque Jésus a déjà dit que cela... ces choses ne vont pas ensemble. L'apôtre Paul disait à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. De Timothée 3, verset 12. Et donc les souffrances de Christ sont les souffrances pour Christ, les souffrances qui sont liées à Christ. Alors quand Paul dit qu'il veut participer à ces souffrances, qu'est-ce qu'il dit ? Son désir est de dire ceci, il ne veut pas éviter à tout prix les souffrances propres à Christ et à la foi en Jésus-Christ. Lorsqu'Ananias est venu le voir, la première fois, juste quand Paul était fraîchement converti, qu'est-ce que Dieu dit à Ananias ? Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les rois, les princes, les grands de ce monde, et je lui montrerai quoi ? Ce qu'il doit souffrir pour moi, pour mon nom. Dieu avait déjà dit à Ananias qu'il va montrer que Paul doit souffrir pour son nom. Et Paul ne veut absolument pas éviter une quelconque souffrance qui se rattache à Christ. Et il décrit même dans Galates ceux qui voulaient ajouter la circoncision à la foi en Jésus-Christ. Il les décrit comme des personnes qui veulent fuir la persécution. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécuté pour la croix de Christ. Il y a des gens qui essayent de faire des choses, d'ajouter des choses. Tout cela, la seule chose qu'ils ont en tête, c'est d'éviter les souffrances qui sont liées à la croix de Christ. Ils ne veulent pas avoir part à ces souffrances-là. Ils disent, moi, je veux connaître Christ de manière à avoir part à ces souffrances-là. La connaissance expérimentale de Jésus-Christ implique vraiment de prendre part à ces souffrances. Et l'apôtre Pierre le souligne clairement dans son épître, sa première épître. Et je voudrais vous lire deux choses que l'apôtre Pierre dit. Une qui se situe avant sa conversion et puis l'autre qui se situe après. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Lorsque Jésus est arrêté, vous vous souvenez de cet épisode, verset Matthieu chapitre 26, et on regarde au verset 69. Pierre suit de loin, n'est-ce pas? Verset 69, il dit « Cependant, Pierre était assis dehors de la cour, une servante s'approcha de lui et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » 70, il le nia tout en disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » 72, il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt le coq chanta. La Bible dit, Pierre se souvint des paroles que Jésus avait dites. Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Mais vous voyez ici, pourquoi Pierre dit, je ne connais pas cet homme. Il voit venir le spectre de la persécution et de la souffrance. C'est pas quelque chose qui est facile à accepter. Il voit, il découvre pour la première fois qu'avec Christ, c'est pas le conquérant victorieux monté sur un cheval blanc qui va tout renverser son passage, mais c'est un homme qui va probablement bientôt être crucifié. Et il sent qu'il y a des souffrances attachées à Christ et ça l'effraie. Et il dit, je ne le connais pas. Le lien entre la connaissance et la souffrance. Mais regardez ce qu'il dit beaucoup plus tard. Après sa conversion et dans sa première épître, chapitre 4, on a déjà lu quelques versets de cela tout à l'heure. Chapitre 4, verset 12. 1 Pierre, chapitre 4 et au verset 12, il dit « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Il dit, lorsque le chrétien souffre, il ne doit pas penser que c'est extraordinaire. Hein. Ça fait partie de son ordinaire. D'accord ? La souffrance fait partie de l'ordinaire du croyant. Alors bien sûr, nous vivons dans une société occidentale où nous n'avons pas de la persécution physique. Mais il n'y a pas très longtemps, les frères nous ont parlé de la situation en Inde, où il y a une persécution physique qui ressurgit. Il y a des pays aujourd'hui où la persécution physique continue toujours. Peut-être qu'on ne sait pas ce qui se passera dans notre pays. Hein. Peut-être un jour ces choses peuvent arriver. Mais il y a néanmoins une souffrance, même dans nos pays occidentaux, qui est une souffrance morale. Allez parler de certaines tendances de la société. Allez parler contre l'homosexualité. Vous allez voir comment vous serez accueillis. On en arrive même à avoir peur de parler de ces choses, n'est-ce pas? Parce qu'on a peur de souffrir et d'être à contre-courant de la société, n'est-ce pas? C'est une souffrance que l'on doit apporter dans beaucoup d'autres domaines. Divorce et autre chose, toutes ces choses que nous voyons dans notre société. Mais je lis la suite de ce que Pierre dit. Il dit, ne trouvez pas ça étrange, c'est ordinaire, dit-il. Et il ajoute même plus que ça. Il dit, réjouissez-vous au contraire de la quoi ? La part, c'est le même mot ici, la communion. Le mot part, communion, la participation. La part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et on sait que plus tard, Pierre a beaucoup souffert, physiquement aussi, pour cela. Au début, avant sa conversion, vous voyez, il dit, je ne le connais pas. D'accord. Mais maintenant, il dit, il ne faut même pas trouver cela étrange. Et au contraire, il faut se réjouir. Lorsque on doit participer, parce que l'on est un enfant de Dieu, à la souffrance. Il faut demander à Dieu la grâce de pouvoir supporter ces choses, de pouvoir le suivre, le connaître jusqu'à ce point-là. La souffrance ne doit pas être une surprise pour l'enfant de Dieu. Paul donc exhorte, il le dit pour lui-même, mais il exhorte aussi Timothée dans ces termes. Il dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre de notre Seigneur Jésus-Christ, ni de moi son prisonnier, mais prends part aux souffrances de l'Évangile. Participe, communie aux souffrances de l'Évangile. Et c'est ce qu'il veut aussi pour lui-même. Et puis troisièmement, l'apôtre Paul parle des verset 10, je reprends encore Philippiens 3, verset 10, il dit « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. » J'ai mis plus qu'une simple connaissance, il parle d'une complète ressemblance. Donc on a vu plus qu'une simple connaissance, il parle de l'expérience de sa puissance, plus qu'une simple connaissance, il parle du partage réel de ses souffrances, et plus qu'une simple connaissance, il parle d'une complète ressemblance avec Christ. Quand il dit ici, je veux être conforme à lui dans sa mort, la Bible Semeur traduit ainsi, je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection, avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort. Et qu'est-ce que ça veut dire ici? Il dit qu'il veut expérimenter la mentalité qui était en Jésus-Christ sur tout le chemin qui l'a conduit jusqu'à la mort. Et c'est ce qu'il avait déjà développé dans Philippiens chapitre 2, vous vous rappelez, hein? Il a parlé, il a dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existante forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. » Et c'est une manière de dire que si je devais aller jusqu'à la mort, il avait dit, hein, lorsque ses frères lui disent, « Paul, tu vas être lié, tu vas être emmené en prison, ne monte pas à Jérusalem. » Il dit, « Que faites-vous là ?» Il dit, « Je suis non seulement prêt à souffrir pour Christ, mais je suis prêt à mourir pour Christ. » Et là, il dit qu'il veut être semblable à lui jusque dans sa mort. La mentalité qu'il a animée, il veut aussi la connaître. Il veut connaître son obéissance, il veut connaître son humilité, il veut expérimenter son abnégation. Le fait qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée la gloire qu'il avait. Le fait qu'il ne s'est pas cramponné à ses doigts. Et il y a un auteur qui dit ceci, il dit, Christ aurait pu refuser de devenir serviteur. Acceptant d'être envoyé, il aurait pu exiger que ce soit selon le respect dû à sa dignité. Il aurait pu demander à venir, non pas incognito, mais avec tout l'éclat des manifestations divines, comme Yahweh sur le mont Sinaï, ou comme lui-même lors de son retour glorieux, ou comme le tentateur le suggérait, dans le désert insensible à la faiblesse, illustre comme souverain, gardé par les anges, et au moins dans la gloire qu'il a connue momentanément sur la montagne de la transfiguration, recevant du Père honneur et gloire. C'était son droit. Et il dit, mais étant de condition divine, il n'a pas fait valoir ce droit. Et quand vous regardez la vie de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 9, il dit, n'ai-je pas le droit d'avoir une femme comme l'ont les autres? Il dit, n'ai-je pas le droit de recevoir un salaire pour l'évangile que je prêche? Il cite un certain nombre de droits qu'il aurait pu avoir, des choses légitimes, et il dit, je n'ai usé, 1 Corinthiens chapitre 9 verset 15, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Parce qu'il a voulu gagner les âmes à Christ, il a voulu être comme Christ. Tout ce que Christ a fait, il a voulu le faire autant qu'il pouvait le faire. Ce que Christ a souffert, il a voulu le souffrir autant que Christ pouvait le souffrir. Ce qui a animé Christ dans sa pensée, il a voulu en être animé autant que possible. Donc la connaissance expérimentale dont il parle ici est une connaissance qui implique une transformation à l'image de Jésus-Christ. Et nous tous, dit la parole, qui le visage découvert contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là que doit être l'ambition du chrétien, de connaître Christ jusqu'à être transformé petit à petit en la même image, penser comme lui, comme le chant que nous chantons. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, hein, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. C'est ce que nous chantons, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est ce que nous vivons réellement? Est-ce que nous cherchons à connaître Christ et à laisser agir par la puissance de son esprit qui nous transforme? Est-ce que nous fuyons les difficultés ou est-ce que nous sommes heureux de pouvoir être associés aux souffrances à cause du nom de Christ? Ou est-ce que nous aspirons vraiment à cette transformation, à cette ressemblance avec Jésus-Christ? Je termine avec quelques mots de conclusion. L'ambition de Paul, ici, doit être aussi l'ambition de tout chrétien, et donc notre ambition. On pourrait avoir tendance de dire, mais Paul parle, c'est pas qu'il parle à la première personne, il dit « je ». Et on pourrait penser, mais oui, mais Paul parle de lui, ça c'est son ambition, c'était un apôtre, et c'est peut-être normal qu'il soit comme ça. Mais ce qu'il dit ici, et qu'il présente comme son ambition, c'est l'ambition que doit avoir tout chrétien. Parce que quelques versets plus loin, il dit, au verset 17 du chapitre 3, il dit « Soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. » Autrement dit, cette connaissance expérimentale de Jésus-Christ doit être notre ambition à tous. Et nous ne pouvons pas chercher à éviter l'action de Dieu dans notre vie, ni les souffrances qui sont associées à l'Évangile, ni nous démarquer de quoi que ce soit. Donc ici, c'est important pour nous, ici, de considérer cela de manière la plus sérieuse qui soit. Deuxièmement, la connaissance par l'expérience permet la connaissance véritable. La connaissance par l'expérience permet la connaissance véritable. Paul connaissait Christ et beaucoup de choses théologiquement sur Christ, plus que nous ne pouvons comprendre. Il nous a donné plus que notre esprit ne peut saisir dans l'Écriture. Il avait une connaissance. À un moment, au chapitre 3, je crois, de l'Épître aux Éphésiens, il dit « Voyez quelle intelligence j'ai de ces choses. » Dieu lui a donné une révélation d'intelligence pour les comprendre, ces choses, et pour pouvoir les exposer. Mais il arrive à la fin de sa vie, il est en prison à Rome, ici, et il dit « Mon ambition profonde, c'est d'avoir cette relation intime avec Dieu, dans laquelle je peux expérimenter la puissance transformatrice de la résurrection qui agit en moi et dans mon ministère. » Il dit « dans laquelle je puisse être vraiment amené à la ressemblance parfaite de Jésus-Christ. » Ici. Et il estime que c'est cela véritablement connaître Jésus-Christ. Certes, il faut passer par une connaissance intellectuelle. Certes, il faut lire. Certes, il faut découvrir les vérités théologiques, historiques, éthiques qui sont données de Jésus-Christ ici. Mais il y a plus que cela. Il y a une connaissance expérimentale qui amène à une véritable connaissance. Tant que la connaissance reste intellectuelle, ça n'est pas une connaissance vraie. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Et de le psaume 34, verset 8, nous voyons « goûter et voyez que l'Éternel est bon ». Il dit pas seulement « voyez que l'Éternel est bon », il dit « goûter que l'Éternel est bon ». D'accord ? Pour ceux qui viennent des Antilles ou de l'Inde, vous aimez peut-être les mangues, vous pouvez faire des tomes et des tomes d'explications sur comment c'est bon, comment c'est juteux, comment c'est parfumé, etc. Et vous pouvez faire toutes les descriptions que vous voulez, mais si la personne goûte vraiment la mangue, il ne connaîtra jamais la vérité sur le véritable goût de la mangue. Et combien il ne pourra pas expérimenter comment c'est bon. Il pourra savoir que vous dites que c'est bon. Il pourra vous croire que c'est bon. Mais il ne pourra pas expérimenter véritablement que c'est bon. Et l'évangile n'est pas quelque chose que l'on contemple. C'est quelque chose qui doit être vécu dans la vie. Christ n'est pas un exemple que l'on contemple. Beaucoup de gens le regardent comme un exemple. Oui, il a bien vécu, il a fait des choses, c'était un homme extraordinaire. Non, c'est pas cela que la Bible nous montre concernant Jésus-Christ. Elle nous montre que nous devons être amenés à une parfaite, profonde connaissance de Jésus-Christ. La vie éternelle de Jésus-Christ, dans Jean chapitre 17, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ. Qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Il n'y a pas de véritable connaissance sans expérience. Et puis, troisièmement, je voudrais souligner que la connaissance expérimentale de Christ implique d'emprunter dans une certaine mesure le même chemin que Jésus-Christ. On ne peut pas connaître Christ expérimentalement en passant par un autre chemin. Il faut passer par la résurrection, il faut passer par la mort, il faut passer par la souffrance, il faut passer par la disposition d'esprit qui animait Jésus-Christ. Ce que l'apôtre Paul souligne ici. Il y a quelqu'un qui a écrit ceci, je vous lis, trouvez ça dans un commentaire, il dit « Beaucoup de chrétiens se satisfont d'une vie où il n'y a pas d'effusion de sang. Ils renoncent à ce qui ne leur coûte de toute façon pas grand-chose. Leur don ne les prive pas, ils ne souffrent pas en s'en séparant. Ils consentent des sacrifices aussi longtemps que leur vie n'est pas menacée. Mais dès qu'un sacrifice vital est exigé, ils s'éclipsent. Ils sont là pour toutes les manifestations de victoire, prêts même à dépenser un peu d'argent pour la décoration, la confection de bannières et l'achat de branches de palmiers. Mais lorsque les Alléluia et les Hosanna se transforment en murmures sinistres et en menaces de mort, et que Golgotha se profile à l'horizon, ils déguerpissent pour se mettre en lieu sûr. » C'est vrai qu'on peut avoir tendance, peut-être on ne le fait pas aussi visiblement que cela, mais parfois on fuit, on ne veut pas trop témoigner, on ne veut pas trop dire de choses, parce qu'on a peur d'être catalogué, on ne veut pas parler trop différemment du monde, parce que bon, ça tranche. On ne veut pas s'habiller trop différemment du monde non plus. Mais la connaissance expérimentale de Christ implique, selon ce que l'apôtre Paul dit ici, d'emprunter le même chemin que Christ. Le même chemin que Christ. Quelqu'un disait que tout ce que Christ a vécu, dans une certaine mesure, le chrétien véritable est amené à le vivre aussi, dans son âme. La mort, la résurrection, les souffrances, la conformité à ses pensées. Et puis, je le disais tout à l'heure, mais nous ne devons pas nous contenter de contempler l'Évangile, mais nous devons vivre l'Évangile. Il ne faut pas simplement savoir des choses à propos de Christ, mais le connaître vraiment par expérience. Connaissez-vous Jésus-Christ? Et quand vous entendez cette question, ce n'est pas ce que vous connaissez des choses concernant Jésus-Christ, mais le connaissez-vous? Êtes-vous d'abord connu de lui? Êtes-vous connu de lui? C'est une chose importante. L'apôtre Jésus lui-même disait qu'à la fin des temps, il y aura des gens qui viendront et qui diront « Seigneur, Seigneur, je te connais, n'avons-nous pas fait ceci ou cela en ton nom ?» Il dira « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Et donc il est important, la première chose, c'est de venir à Christ, le recevoir. L'apôtre Paul parle de son témoignage ici, il parle de comment il était avant, mais il parle de comment il est depuis qu'il a connu Christ. Sur le chemin de Damas. Il a commencé par dire « Qui es-tu, Seigneur, que je persécute ?» C'est sa première question qu'il a été saisi par Christ. « Qui es-tu, Seigneur, que je persécute ?» Et il termine sa vie en disant « Je le connaîtrai. Je veux le connaître. » Et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Il faut le connaître. Et si vous affirmez être un enfant de Dieu, est-ce que vous désirez, est-ce que nous désirons vraiment expérimenter de plus en plus tout ce qui concerne Christ, y compris les souffrances, le rejet, les moqueries que nous pouvons recevoir à cause de lui? Est-ce notre cas? Faisons-nous plus d'efforts pour être conformes au monde ou pour être conformes à Jésus-Christ? Le connaître implique ce passage-là. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole et attire nos cœurs à lui dans une véritable connaissance et communion avec lui. Prions.